Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Aujourd'hui s'ouvre à Paris le Salon Mondial du Tourisme. Vol à bas prix, plateformes de location de logements ont encouragé et amplifié les flux touristiques à l'échelle internationale. Une tourismophobie a même traversé l'Europe l'été dernier. Barcelone, Venise, Dubrovnik. Des habitants ont manifesté contre le tourisme de masse. Je vois la Tour Eiffel là pour l'instant. Il n'y a pas de manifestation en bas. Bonjour Maria Gravary-Barbas.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors tout d'abord, dites-nous ce qu'est la tourismophobie et à partir de quel seuil on peut parler d'un trop-plein de tourisme, si vous considérez que c'est le cas.
Alors, il n'y a pas de seuil. Nous ne parlons pas des chiffres absolus. Nous parlons des sentiments de FIDAP, en fait, des personnes qui sont confrontées à une réalité de surfréquentation touristique dans leur lieu de vie. Et effectivement, il y a eu un moment extrêmement fort au cours de ces derniers étés dans certaines capitales ou métropoles touristiques en Europe.
Mais vous trouvez que ce sentiment existe en France où on a reçu l'an dernier 89 millions de visiteurs étrangers?
Il est très difficile de d'évoquer ces phénomènes en France. Effectivement, la France est la première destination touristique mondiale actuellement. Je pense qu'elle a bien envie de continuer à l'être, même si les évolutions plus générales et globales dans le monde feront que sans doute cette place reculera dans les années à venir. Aujourd'hui, il faut faire la différence entre la France, qui est un pays qui est entré dans le tourisme depuis fort longtemps, qui est préparé, qui est armé finalement pour bien accueillir ce tourisme et bien le planifier, l'organiser, le réguler, et d'autres pays qui sont sans doute de nouveaux venus en fait dans ce grand marché du tourisme et qui sont sans doute beaucoup moins armés.
Alors restons quelque temps en France encore, Maria Gravary-Barbas. En France, le tourisme est concentré dans certaines zones.
Effectivement, il y a des endroits qui sont plus visités et une des grandes questions du tourisme, c'est de faire en sorte à ce que des flux touristiques aillent vers certaines autres zones qui sont extrêmement demandeuses. Donc on n'a absolument pas affaire à un phénomène isotrope qui caractérise de la même façon l'ensemble de l'espace français.
Mais alors vous justement qui surveillez le marché du tourisme, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de zones qui jadis n'étaient pas du tout fréquentées par les touristes? Je pense par exemple au tourisme vert, à celui qu'on peut observer dans les campagnes. Est-ce que celui-ci se développe pour les touristes étrangers? Est-ce que ça reste encore marginal?
Ça reste en grande partie marginal. Il y a de nouvelles formes de tourisme qui sont extrêmement intéressantes par leurs apports socio-économiques, etc., qui sont tout à fait demandés et attendus dans les zones dans lesquelles ils se déroulent, mais restent effectivement relativement marginaux par rapport à des phénomènes touristiques qui restent toujours aujourd'hui surconcentrés dans certaines zones.
Mais alors, en France, il y a quand même 40 sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. On voit que c'est de plus en plus une compétition dans le monde pour faire entrer un site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que là, il y a des effets pervers, par exemple, sur ces inscriptions?
Je ferai une analyse totalement différente pour un pays du Sud, par exemple. Pour la France, on ne peut pas dire cela. Inscrire un site au patrimoine mondial de l'UNESCO implique une préparation qui parfois dure plusieurs années. Parfois, le montage des dossiers au patrimoine mondial demande une préparation d'une dizaine d'années pendant laquelle tout un ensemble de choses se mettent en place, une gouvernance touristique se met en place, les acteurs anticipent la fréquentation touristique et je pense qu'effectivement, il est très difficile de parler de véritables problématiques de surfréquentation dans les sites du patrimoine mondial en France, ce qui n'est encore une fois pas le cas d'autres sites touristiques dans d'autres pays.
Surtout que parfois l'inscription est quand même très conceptuelle. Par exemple en 2015, c'était les climats du vignoble de Bourgogne. Donc c'est quand même quelque chose d'assez brumeux, météorologique, les climats du vignoble de Bourgogne. On voit en tout cas que ces sites sont fréquentés bien sûr, mais il y a également des sites que je qualifierais d'artificiels, par exemple Disneyland, et une destination extrêmement importante pour la France. On peut le déplorer ou s'en féliciter, mais en tout cas, c'est le cas.
Absolument. C'est vrai qu'il y a, encore une fois, des phénomènes d'hyperconcentration sur certains sites, et vous évoquez les cas de Disneyland. Pour parler des climats des Bourgognes, donc les climats se réfèrent à ces petites parcelles en fait, qui ont chacune leurs propres caractéristiques, en fait, en termes de cépages, qui effectivement ont été inscrites au même moment que le champagne, en fait, à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des effets extrêmement positifs, en l'occurrence, en termes de structuration des acteurs locaux, des gouvernances locales et des structurations aussi d'un tourisme qui, effectivement, dans ces territoires qui sont extrêmement fragiles, demande une organisation beaucoup plus meilleure. En fait.
Vous nous avez dit qu'il y avait une longue tradition de tourisme en France, et on voit où est-ce qu'elle se situe, sur la Riviera par exemple. On sait que ça fait des décennies que l'on reçoit des touristes là-bas, mais quand on voit par exemple le phénomène qui s'est déroulé cet été à Barcelone, qui pouvait choquer, parce que on est tous allés à Barcelone, on était heureux d'y être, et on ne comprend pas très bien pourquoi en tant que touriste, on est refusé là-bas. Alors, est-ce que cela signifie par exemple que l'arrivée du tourisme est trop récente, trop forte dans des villes comme Barcelone ?
Oui, Barcelone est une nouvelle destination touristique. Barcelone est une ville qui a émergé touristiquement à partir des années 1990. Donc, le passé touristique de Barcelone n'est absolument pas comparable avec celui de Paris, par exemple. Et là, dans les cas de Barcelone, on a des phénomènes que nous qualifions aujourd'hui de phénomènes disruptifs, et qui sont par exemple toutes ces plateformes de location qui changent de façon considérable la donne, la répartition du tourisme dans la ville. Et là, à l'occurrence,
vous parlez
sans
d'Airbnb,
aucune anticipation.
Hein, je fais du sous-titre.
Oui, voilà. Sans aucune anticipation, puisque les villes, effectivement, n'avaient pas du tout vu venir ce phénomène qu'elles cherchent à réguler a posteriori. Aujourd'hui, nous organisons une journée précisément sur cette question-là, sur la question d'Airbnb et de façon plus générale sur les plateformes locatives touristiques dans les villes essentiellement. Et nous travaillerons justement sur la régulation de ces phénomènes qui est tout à fait nouvelle.
Et alors là, qu'est-ce que l'on peut faire du coup pour contrer ce tourisme qui provoquerait donc des réactions assez violentes, assez vives de la part des habitants de ces villes ?
Bah, encore une fois, c'est une question de communication, c'est une question de compréhension, c'est une question aussi de structuration de ces phénomènes. Aucune personne ne penserait jamais laisser se développer une activité industrielle ou une activité économique autre, n'importe où et n'importe comment. Exactement la même chose devrait en fait être comprise pour le tourisme. Le tourisme est aussi un phénomène qui s'organise, qui se structure et qui se régule.
Merci Maria Gravary-Barbas. Je rappelle que vous
Merci
êtes professeure de géographie à l'Université Paris 1. Il est 7h24 sur France Culture.